Père Pierre Vivarès, bonjour et bienvenue
Bonjour.
sur les ondes de Radio Maria France.
Merci.
Notre émission s'appelle Un prêtre témoigne. Nous serions heureux de découvrir en premier lieu comment le doigt de Dieu s'est posé dans votre vie. Mais tout d'abord, voulez-vous bien vous présenter à nos auditeurs ?
Eh bien, je m'appelle Pierre Vivarès, j'ai 54 ans, je suis prêtre depuis 26 ans. Je suis curé de paroisse à Paris, à la paroisse Saint-Paul, dans le 4e arrondissement. Voilà.
D'accord. Maintenant, revenons, si vous voulez bien, à l'origine de cette vocation à servir le Christ dans le sacerdoce. Comment est-ce que ça a débuté ?
Bon, à l'origine, c'est de manière très simple. Je suis d'une famille chrétienne. Lorsque j'étais au lycée, je me suis préparé à la confirmation. J'ai reçu le sacrement de confirmation, j'étais en première. Et à l'occasion du sacrement de la confirmation, l'idée de devenir prêtre m'a touché. Et je l'ai accepté de manière assez paisible, assez sereine et assez joyeuse. J'ai continué mes études. Et lorsque j'ai senti que le moment était venu, j'ai demandé à rentrer au séminaire, où je suis rentré et dont je suis sorti prêtre.
Quand
voilà.
Vous parlez
c'est quelque chose de très, très simple, en fait.
Simple parce que vous parliez de famille chrétienne. C'est une famille chrétienne heureuse, priante, pratiquante ?
Oui, c'est une famille traditionnellement chrétienne, paisiblement chrétienne. C'est très équilibré, je trouvais. C'était une pratique de la foi qui était une sorte d'évidence, sans crispation, sans... c'était très paisible, en fait. On est chrétien, c'était voilà, on est chrétien. Mais de manière à la fois dans les paroles, mais aussi dans les actes. J'ai vu mes parents poser des actes de vie chrétien dans leur vie. Et ça, c'est un bel exemple pour des enfants.
Et à votre formation, au temps de formation au séminaire, est-ce que ça a été heureux aussi, ou est-ce qu'il y a eu du remous ?
Oh, ça a été, c'était l'époque où on construisait un peu le séminaire de Paris, dans les années 88, 88-92. C'était joyeux, c'était paisible. Il y a eu du remous, comme dans tout discernement de vocation sacerdotale. Il y a forcément des questions que l'on se pose un jour ou l'autre, tant sur soi-même que sur l'institution ecclésiale, que sur la formation, que sur son contenu. Mais l'idée d'être appelé à être prêtre ne m'a jamais quitté. Donc ce fil rouge, ce fil directeur était ce qui faisait l'unité de toutes les questions, de toutes les incompréhensions que l'on peut avoir pendant la formation.
Et maintenant que vous avez quitté le séminaire, qu'est-ce qui vous a le plus particulièrement marqué au séminaire ?
Ça fait longtemps que j'ai quitté le séminaire. J'ai quitté le séminaire il y a 26 ans. Ce qui m'a le plus marqué... certainement, c'est la quête de la justesse théologique, de la rigueur théologique. La philosophie, la théologie, l'écriture sainte sont des matières qui demandent de la rigueur, qui demandent du travail. Ça ne s'improvise pas, ce n'est pas une douce poésie sans bornes et sans règles. Donc voilà, tout ce travail rigoureux d'études, de lecture, d'études, d'écriture, pour discerner par l'intelligence le mystère de Dieu, ce qui doit aller de pair aussi avec un discernement par la prière et la charité du même mystère de Dieu, et d'unifier toutes ces approches de l'unique mystère de Dieu à travers des chemins différents que sont différents mais pas opposés, que sont la prière, l'étude, l'écriture sainte, la charité, la vie fraternelle. Voilà. Mais ce qui me reste de ces années de séminaire, oui, c'est la nécessité de travailler, et de travailler avec rigueur, parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas dire les choses n'importe comment, et ça demande du travail.
Et on ne peut pas célébrer non plus le Saint-Sacrifice de la messe n'importe comment. Est-ce que vous avez trouvé cette rigueur aussi dans le culte de la liturgie au séminaire ?
Oui, au séminaire de Paris, les offices et les liturgies étaient célébrés dignement, sans aucun problème. Et je pense en plus que c'est la première des politesses à avoir que de célébrer dignement l'Eucharistie pour le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas là pour imposer nos lubies, nos idées, nos caprices. Nous sommes là pour recevoir un rite qui, par définition, est toujours la même chose, puisque c'est un rite, et de l'habiter, ce rite-là, pour célébrer le mystère divin. Donc ça, au séminaire de Paris, j'ai jamais été choqué d'une manière ou d'une autre par le manque de qualité qu'il y aurait pu avoir dans les célébrations liturgiques que nous avions au séminaire, en tout cas.
Et quelle a été la place de la vie d'oraison dans ce séminaire? Avez-vous reçu une initiation pour cette vie intime?
Oui, alors en fait, c'est compliqué d'enseigner la vie d'oraison parce que je pense que chaque personne a une vie d'oraison qui lui est particulière et qui lui est propre. Donc, il faut que chacun trouve sa manière de prier. Et je pense en plus qu'au cours d'une vie, nos manières de prier évoluent, changent. C'est une vie, la vie spirituelle, pardonnez-moi la tautologie, mais c'est une vie. Et que si c'est une vie, elle est en croissance, elle est en questionnement, elle est en doute, elle est en émerveillement, elle est féconde, parfois on a l'impression qu'elle est stérile. Et au séminaire, on peut pas dire qu'on nous a appris à prier, puisque bon, les gens qui rentrent au séminaire ont déjà quand même un bout de vie spirituelle qui leur est propre. Certainement, nous avons été ouverts à d'autres spiritualités, d'autres formes de spiritualité, d'autres modes de prière que certains que nous ne connaissions pas à travers les grandes figures spirituelles de l'histoire de notre Église. Mais c'est à chacun de se façonner sa propre vie spirituelle, de la construire. Et là, ça se passe plutôt avec l'accompagnateur spirituel, avec le père spirituel, avec lequel on relie notre vie de prière. Et ça ne relève pas tellement des cours que l'on aurait en classe. C'est quelque chose de trop intime pour être débattu publiquement dans un cours public.
Et vous parlez des accompagnateurs. Est-ce qu'il y a dans votre vie de prêtre des sources d'inspiration, ceux et celles qui vous donnent du zèle, de l'enthousiasme et qui vous permettent de supporter les absences, les moments où notre
Il y a
Seigneur
des...
se fait attendre?
Oui, il y a des figures de prêtres qui m'ont marqué. Il y en a eu plusieurs, très différents d'ailleurs. Ce qui est amusant, c'est que j'ai eu des figures de prêtres qui étaient très très différentes entre un aumônier malgache qui était en France, entre un prêtre, un curé de paroisse, un prêtre qui était religieux. Enfin voilà, des figures de prêtres qui étaient très différentes. Et en fait, ces figures de prêtres, elles m'ont appris que on n'a pas à se conformer à un moule préexistant, à un modèle préexistant de prêtre. On a à devenir prêtre tel que l'on est, être soi-même prêtre. Et on n'a pas à correspondre à une image d'Épinal ou à un vitrail immobile.
Même si c'est
Si
le curé
Dieu,
d'Ars, quoi,
même si c'est le curé
même si c'est le
d'Ars,
curé
le
d'Ars,
curé d'Ars n'est
modèle
pas un,
désespérant, mais
c'est pas
modèle
un
quand même.
modèle. J'aime pas le mot de modèle, parce qu'un modèle, il faut le copier. Et je pense que dans la spiritualité chrétienne, faut faire attention à l'idée, je sais qu'il y a l'imitation de Jésus-Christ, que le curé d'Ars peut être un modèle pour les prêtres, mais il faut faire attention à ce que le modèle ne soit pas au détriment de la personnalité, parce que si Dieu a voulu qu'un tel ou un tel soit prêtre, religieux, religieuse, mère de famille, c'est qu'il voulait que cette personne-là incarne dans sa vie l'unique sacerdoce du Christ, l'unique baptême que nous recevons tous, la paternité ou la maternité divine partagée par le Seigneur. Donc, il faut faire attention à l'image des modèles, qu'elle ne soit pas le lieu où une personnalité va abdiquer ce qu'elle est. Et on voit bien moi, j'aime beaucoup quand nous sommes à Notre-Dame ou à Saint-Sulpice maintenant, regarder toutes ces figures de prêtres qui m'entourent, qui sont tous prêtres de Paris. On est 500 prêtres à Paris. Et quand je fais un tour d'horizon de tous ces visages qui sont prêtres, il n'y a pas plus différent comme type d'homme, comme physique, comme tempérament, comme intérêts pastoraux, comme points d'insistance. Ils sont tous très différents, mais c'est ce que Dieu a voulu, c'est cette différence-là. On n'est pas fabriqué à l'image d'un moule où tout le monde penserait pareil, s'exprimerait pareil, aurait les mêmes points d'attention. Et c'est cette richesse-là qui fait que Dieu appelle qui il veut, quand il veut, où il veut. Et ce qui est difficile, c'est d'arriver à devenir profondément prêtre en étant profondément soi-même, d'incarner soi l'unique sacerdoce du Christ que nous recevons en partage.
Quand vous dites pleinement prêtre, c'est-à-dire pleinement un autre Christ?
Alors, il y a plusieurs choses. On pourrait dire que chaque baptisé doit devenir un autre Christ là où Dieu le place. Le ministère sacerdotal, c'est un ministère d'intercession. C'est un ministère de guérison. C'est un ministère d'annonce de la parole. Ce matin, j'ai célébré le sacrement des malades pour un couple de personnes très âgées dans ma paroisse. Je suis allé les voir chez eux. C'était un ministère de guérison. Et là, profondément prêtre, c'est d'être profondément au service de ces personnes qui faisaient appel à la prière de l'Église au milieu de leur maladie, de leur vieillesse et de leur souffrance. Après, ça peut être un ministère de la parole où il faut enseigner l'Écriture et on reçoit la mission d'enseigner et d'éclairer cette Écriture pour le peuple de Dieu. Ça peut être une mission de célébration, d'une grande joie, des baptêmes, des mariages. On partage la grâce même de Dieu. On ouvre les écluses du ciel pour que Dieu se donne. C'est ça, devenir profondément prêtre. Et ça prend du temps. Mais je pense que devenir époux, épouse dans un couple, ça prend du temps aussi. Et ce sont des travaux, un travail, pour devenir ce que Dieu a fait que nous devenions. Devenir ce que l'on est, en fait. C'est comme le jour de notre baptême. Nous étions, la plupart d'entre nous, des petits-enfants, des petits bébés. Et devenir fils et filles de Dieu, ça prend toute une vie. Bah, devenir prêtre, ça prend toute une vie. Devenir époux, épouse, père, mère, ça prend toute une vie. Dans l'unique mystère de la grâce de Dieu qui se donne.
Vous avez commencé à évoquer les joies de votre ministère. J'aimerais vous demander quelle est la plus grande joie de votre ministère?
Oh, je ne pourrais pas vous dire comme ça, là, tiens, c'est ça qui me rend le plus heureux. Quand on est prêtre diocésain, c'est une. Je dirais qu'on est un peu des. On accueille le tout venant, c'est-à-dire que la porte est ouverte et puis vient qui veut. Et ce sont toutes ces rencontres de gens, alors un petit couple qui vient demander à se préparer au mariage, des parents qui amènent leur bébé pour qu'il soit baptisé, personnes âgées qui téléphonent pour qu'on leur apporte le sacrement des malades ou qu'on aille les confesser chez eux, un SDF qui vient sonner à la porte parce qu'il a besoin d'une couverture. Moi, ce que j'aime dans ce ministère, c'est le ministère de la porte ouverte, en fait. C'est que, voilà, les gens, ils viennent, ils sonnent et ils demandent quelque chose. Et dans la mesure du possible, on essaye de leur donner ce qu'ils demandent. Alors quand ils demandent la grâce de Dieu, on n'essaye pas, on leur donne, parce que c'est notre devoir de donner cette grâce. Après, il y a toutes les questions que l'humanité charrie, porte dans sa vie et que l'on écoute, que l'on porte avec eux, que l'on essaye d'accompagner, que l'on essaye d'éclairer aussi. Donc il n'y a pas de choses qui me rendent plus heureux. Bon, en général, moi, si j'ose dire, je suis plutôt bon public, moi. Quand je suis sorti de mes deux petites personnes âgées ce matin, j'étais tout content parce que je les trouvais trop mignons. Et puis quand je sors d'un baptême, je me dis, c'est génial, il était trop mignon le bébé. Et puis quand je sors d'un mariage, je me dis, oh, ils étaient trop mignons mes petits mariés. Et puis quand je sors d'une messe, je me dis, ils sont trop mignons mes paroissiens. Ouais, je suis plutôt bon public. Donc, il y a beaucoup de choses qui me réjouissent, en fait.
Qu'aimeriez-vous transmettre à un jeune prêtre comme outil ou comme arme, parce que le combat est rude quand même dans le sacerdoce, qu'est-ce qui pourrait l'aider, vous qui pouvez maintenant compter des années au
De
service?
travailler,
Oui.
y a que ça, le travail. Parce que je pense d'abord que n'importe quel métier exige un travail. Il n'est pas question de talent. Il y a des gens qui ont du talent pour telle ou telle chose. Mais ce que Dieu nous demande, c'est l'évangile de dimanche prochain, hein. Nous sommes des serviteurs inutiles, nous n'avons fait que notre travail. Alors on retient souvent le mot inutile parce que ça agace certains de croire qu'on est inutile ou utile. On va se poser des questions pendant des heures pour savoir si on est utile ou inutile. Non, à mon avis, la pointe de l'évangile, c'est nous n'avons fait que notre travail. Et qui dit travail, d'y travail, c'est-à-dire qu'il y a une exigence de présence, de préparation, de formation, d'écoute. Il y a des jours où on arrive au bureau d'accueil et on n'est pas disposé à écouter parce qu'on a des soucis dans la tête, parce qu'on pense à autre chose, parce qu'on est fatigué, parce que ceci. Et il y a ce moment de récollection intérieure où on se décide de se mettre en situation d'écoute. C'est un travail. Et ça, c'est valable pour tout. Je n'aime pas célébrer des enterrements spécialement. Ce n'est pas quelque chose qui me réjouit absolument de célébrer un enterrement. Mais il y a toujours ce moment où je me dis, bon, allez, là, il faut y aller. C'est à toi de le faire. C'est à toi de porter cette famille dans la prière. C'est à toi de prier pour ce défunt. C'est ton job, quoi. Et donc, je pense que quelles que soient les situations, les époques de la vie, les difficultés que l'on peut rencontrer, la chose essentielle, c'est le travail. Voilà. Et c'est ce que je dirais à un jeune prêtre.
Parce que vous avez remarqué que souvent nous sommes en deçà de la grâce reçue et souvent en deçà de la vocation qui est la nôtre.
Parce que nous sommes dans une société et l'Église n'est pas imperméable à la société où plus personne ne travaille avec rigueur. Et je trouve qu'un des problèmes de notre société, c'est on pourrait lister les problèmes de notre époque à l'envi, mais je trouve que fondamentalement il y a un manque de rigueur partout et pour tout. Et comme nous ne sommes pas imperméables, il peut y avoir aussi dans l'Église un manque de rigueur sur des détails qui peuvent paraître être comme des détails, mais la tenue d'une église, la tenue d'une célébration, la beauté d'un endroit, la ponctualité d'un service, la qualité d'une homélie préparée. Il ne s'agit pas de faire une belle homélie, mais au moins de l'avoir préparée, que les gens se disent bah, « il a bossé ». Vous voyez, et je pense qu'il faut cette rigueur-là, et nous témoignons de la plus belle chose. J'aime pas dire ça parce que c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Nous témoignons de la plus belle personne qui soit, à savoir Dieu. Il faut le faire avec la beauté même de Dieu. Et ça serait pour moi le conseil, parce que pour tout le reste, j'aurais rien à lui dire, parce que je ne sais pas dans quelle paroisse il sera, dans quel quartier il sera, quel sera son ministère. C'est très différent d'être aumônier d'hôpital et être aumônier de jeunes, aumônier de prison ou curé de paroisse, enseignant dans une université ou aumônier scout. Enfin, on ne peut pas donner des conseils pour toutes les facettes du ministère qui sont innombrables. En revanche, ce qu'on peut dire à chacun et à tous, c'est travailler. Et travailler avec rigueur, d'abord parce qu'il y a une joie, je crois profondément à la joie du travail bien fait, et que cette joie-là va rejaillir auprès de ceux dont ils seront, qui seront récipiendaires de ce travail. Et la joie, enfantant la joie, ben, ça peut donner une église qui est joyeuse et qui est heureuse de servir son Dieu.
Père Pierre Vivarès, vous êtes serviteur de notre joie, c'est vrai, et pour que cette joie grandisse, à quelles intentions voudriez-vous que prient nos auditeurs? Par exemple, nous allons prier à 15h, là, le chapelet de la Divine Miséricorde. Oui. Il y aura bien des chapelets, des offices sur l'antenne de Radio Maria France. Quelles sont les intentions que vous voulez déposer?
Alors, moi, j'aimerais qu'on prie pour l'unité de l'Église en ce moment. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui ne sont pas forcément justes, qu'il y a beaucoup de faux débats qui agitent l'Église en ce moment. Et prier pour l'unité de l'Église n'est jamais un luxe. Prier pour l'unité de l'Église autour de notre Saint-Père le Pape, qui est celui qui préside à la charité entre toutes les Églises, de dépasser les querelles idéologiques qui n'ont parfois pas tellement de raison d'être. Donc prier pour l'unité de l'Église, prier pour notre jeunesse aussi, qui est abîmée, qui a été abîmée par le confinement, le Covid, qui est abîmée par des idéologies qui sont mortifères. Prier pour cette jeunesse, pour que le bon sens l'emporte et qu'elle se rende compte qu'une vie heureuse, c'est une vie qui est donnée, c'est une vie qui est dans l'amour, qui est une vie qui accueille la vie, qui est une vie de travail, qui est une vie d'amitié et de joie. Voilà. L'unité de l'Église et notre jeunesse, ça me paraît déjà de bonnes intentions à porter aujourd'hui.
Et pour finir cet entretien, à part la parole de Dieu, quel est votre livre préféré, celui que vous, en tout cas, vous, que vous conseilleriez à nos auditeurs?
Ah, mon Dieu, il y en a trop.
C'est pour ça qu'il y a préféré.
Préféré, honnêtement, je pourrais pas dire. Je trouve que la règle de Saint Benoît est quelque chose de très beau dans son prologue. L'imitation de Jésus-Christ a de très belles pages aussi. La spiritualité est multiple. Le récit du pèlerin par Ignace de Loyola est un texte absolument fondateur de la spiritualité. Voilà, les Fioriti de Saint-François. Enfin, il y a beaucoup de textes comme ça qui sont des sources vives, des sources jaillissantes d'eau vive dans la spiritualité. J'ai pas de livre de chevet au sens où un livre où je reviens sans cesse, non. Je relis souvent les textes que j'ai cités à l'instant. Mais là aussi, c'est à chacun d'aller lire à droite, à gauche, et de faire son miel avec des lectures qu'il peut faire à droite, à gauche. Et parfois, même au milieu d'un roman de 500 pages qui n'a absolument rien de chrétien, on va trouver une phrase qui va nous illuminer. Et c'est aussi l'intérêt de la littérature de pouvoir illuminer un cœur à travers une image, on parlait récemment de la finale des Raisins de la colère de Steinbeck, qui est absolument magnifique de christianisme et de charité. Voilà, il y a des pages comme ça qui ne sont pas forcément dans la littérature spirituelle chrétienne, mais qui peuvent illuminer le cœur si notre cœur est ouvert à la contemplation. Et
C'est vrai que même Pif Gadgets, si le Saint-Esprit s'en mêle, ça peut convertir.
Exactement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une image, mais même, je dirais, un rayon de soleil dans les jardins des Tuileries peut élever notre âme. Simplement, je pense que c'est plus une attitude du cœur à avoir, une ouverture du cœur à avoir sur les personnes que l'on rencontre, les situations où l'on est, les lectures que l'on fait, qui peuvent nous dilater l'âme.
Père Pierre Vivarès, c'est ainsi que se termine notre émission Un prêtre témoigne. Un chaleureux merci d'être venu à
Merci à
notre
vous.
studio de Paris pour nous en
Merci.
donner un peu plus à contempler et à connaître. Merci beaucoup.
Merci, monsieur.
Chers auditeurs, c'était notre émission Un prêtre témoigne. Nous étions avec le Père Pierre Vivarès. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.